أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
J'évoquais l'expédition de Tabouk. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partit pour cette expédition. L'histoire nous en apprend davantage à ce sujet. Après le départ de l'armée islamique pour Tabouk, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit sa première halte à Dhu Khushub. Dhu Khushub est une vallée sur la route de la Syrie à une nuit de voyage de Médine où se trouve un grand nombre de sources d'eau. De là, le saint prophète Mohammed peace be upon him, lui, a commencé à accomplir les prières de Dhuhr et d'Asr combinées. Au cours de ce voyage, il a constamment accompli les prières de Dhuhr et d'Asr ainsi que celles de Maghrib et d'Isha combinées. On ne dispose pas de détails complets sur les lieux où le saint prophète Mohammed peace be upon him, lui, a fait halte durant ce voyage. Certains de ces lieux sont simplement listés par leur nom. Si l'occasion se présente, ils seront également décrits plus tard, Inch'Allah. D'après Mu'adh bin Jabal, le saint prophète Mohammed peace be upon him, lui, était parti pour l'expédition de Tabouk. Le soleil s'est décliné avant son départ. Il a regroupé les prières de Dhuhr et d'Asr. Et s'il partait avant le déclin du soleil, il retardait Dhuhr jusqu'à ce qu'il s'arrête pour la prière d'Asr. Et il en faisait de même pour la prière de Maghrib. Si le soleil se couchait avant qu'il ne se mette en route, il regroupait la prière de Maghrib et d'Isha. Et s'il se mettait en route avant le coucher du soleil, il retardait la prière de Maghrib jusqu'à ce qu'il descende pour la prière d'Isha. Ensuite, il regroupait ces deux prières. On rapporte également que lors de ce voyage, Abdurrahman bin Auf a eu le privilège de diriger la prière. Le récit est le suivant. Mughira bin Shu'ba relate qu'il a participé à la bataille de Tabouk avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed peace be upon him, était parti avant l'après de Fajr pour satisfaire un besoin naturel. Mughira bin Shu'ba relate « J'ai porté la gourde d'eau avec lui », c'est-à-dire qu'il a accompagné le saint prophète Mohammed peace be upon him, en portant l'eau. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est retourné vers moi, j'étais debout à distance et je me suis mis à verser de l'eau de la gourde sur sa main. Et il s'est lavé les deux mains trois fois. Ici, il décrit la manière de faire les ablutions, c'est-à-dire comment il faisait ses ablutions en voyage. Ensuite, il a lavé son visage béni. Ensuite, il a commencé à sortir ses bras de sa djoubba. Mais les manches de la djoubba étaient étroites, alors il a mis ses mains à l'intérieur de la djoubba. Et il a fait passer ses avant-bras sous la djoubba pour les laver jusqu'au coude. Ensuite, il a passé ses mains bouillies sur ses chaussettes, c'est-à-dire qu'il portait des chaussettes à ce moment-là. Il a donc passé ses mains mouillées sur les chaussettes pour les nettoyer. Ensuite, il a continué à marcher. Mughira bin Shu'ba déclare, j'ai avancé avec lui et nous sommes arrivés à l'assemblée et nous avons constaté que les fidèles avaient mis Abdurrahman bin Auf en avant. Il dirigeait la prière. Le saint prophète, paix soit sur lui, a rattrapé une des deux rakats, c'est-à-dire que les fidèles avaient déjà accompli une rakat et il a accompli la deuxième rakat avec les gens. Quand Abdurrahman bin Auf a terminé la prière et que le saint prophète, paix soit sur lui, s'est levé pour compléter sa salat, cela a causé de l'agitation parmi les musulmans et ils se sont mis à glorifier Allah à foison. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a terminé sa prière, il s'est tourné vers les gens et il a déclaré « Vous avez très bien fait ». Ou il a déclaré « C'est bon ». Et il a félicité les gens pour avoir accompli la salah à l'heure prescrite. On trouve aussi le fait que le saint prophète, paix soit sur lui, est passé par les ruines du peuple de Thamoud. Ibn Omar radhiyallahu anhu rapporte que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est installé à Al-Hijra lors de l'expédition de Tabouk, il leur a ordonné de ne pas boire du puits de Al-Hijra et de ne pas y abreuver les animaux. Les compagnons ont répondu que nous avons déjà pétri de la farine avec l'eau de ce puits et nous avons abreuvé nos bêtes. Le saint prophète, paix soit sur lui, leur ordonna de jeter la pâte pétrie et de verser aussi l'eau dont ils disposent. Selon un autre récit, il est rapporté que le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a ordonné de jeter la nourriture. Et Abu Dhar a rapporté que le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré « Celui qui a pétri la farine avec cette eau », c'est-à-dire qu'il a ordonné de jeter la farine pétrie avec l'eau prise de cet endroit. Un autre récit rapporte que le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré « Ne buvez pas l'eau de ce puits et ne faites pas vos ablutions avec cette eau. Donnez plutôt la pâte que vous avez pétrie avec son eau au chameau et n'en mangez pas vous-même. » Selon un autre récit, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré de prendre l'eau du puits où la chamelle du prophète Saleh venait s'abreuver. C'est-à-dire de prendre l'eau où la chamelle du prophète Saleh venait s'abreuver. Et il ne faut pas prendre de l'eau du puits qui était interdit, mais plutôt de prendre l'eau du puits où la chamelle du prophète Saleh venait s'abreuver. Selon le commentateur d'Al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, le saint prophète, paix soit sur lui, a eu connaissance par révélation du puits de la chamelle du prophète Soalir. Selon un récit, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est passé par Al-Hijr, il a déclaré « N'entrez pas dans les habitations de ceux qui ont commis l'injustice, à moins que vous ne pleuriez. » C'est-à-dire qu'il faut être dans un état de grande crainte et d'humilité et passer par ici en invoquant Allah, parce que vous traversez des lieux où des peuples ont subi un châtiment. Vous devez agir de la sorte de peur que vous ne soyez touchés par le malheur qui les a frappés. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, s'est couvert le visage de son châle et il était monté sur sa monture. Selon un autre récit, il s'est couvert la tête. Il a accéléré jusqu'à traverser la vallée. Cette région s'appelle Hijr et se situe sur la route de Médine à Tabouk. C'est là qu'était installée la communauté de Thamoud, le peuple du prophète Saleh. Cette région s'appelle Al-Hijr. Aujourd'hui, cette région est connue sous le nom de Madain Saleh. Allah avait comblé ce peuple de nombreuses bénédictions. Ils avaient des champs verdoyants, des sources vives, une vaste organisation agricole, des palmeraies, des vergers, d'autres fruits. Ces gens possédaient une force et une capacité inégalables. Ils avaient un grand potentiel, c'était des travailleurs acharnés, et Allah les avait généreusement dotés grâce aux ressources naturelles. Leur talent était tel qu'ils savaient construire des maisons dans les montagnes. La chamelle de Saleh était un signe pour eux, mais ils lui ont coupé les jarrets. Et Allah les a détruits en raison de leurs péchés et les a anéantis. Dans le Saint-Coran, le nom de ce peuple apparaît comme Ashabul Hijri. Et d'ailleurs, il y a une sourate dans le Saint-Coran nommée Al-Hijr. Durant ce voyage, on trouve également le récit de la perte de la chamelle du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici les détails à propos de cet incident. Le Saint-Prophète Mohammed se rendait donc à Tabouk et sa chamelle nommée Kaswa s'est égarée en cours de route. Les compagnons du Saint-Prophète sont partis à sa recherche. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui Ammar bin Hazm, qui avait participé au serment d'Al-Aqaba et qui était un compagnon de Badr. Dans la tente d'Amara se trouvait un certain Zayd bin Salt qui appartenait à la tribu juive des Banu Qaynuqa. Il était un juif qui s'était par la suite converti à l'islam. Mais il était un musulman qui manifestait de l'hypocrisie. Sa foi n'était pas pleinement ancrée. Et son tempérament s'est manifesté ici aussi de cette manière. Cela s'est passé ainsi. Zayd a dit aux gens de la tente, tandis qu'Amara était présent près du Saint-Prophète, paix soit lui. Il a déclaré, « Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne prétend-il pas être un prophète ?» Et il vous informe des nouvelles du ciel, alors que lui-même ne sait pas où est passée sa chamelle. Zayd disait cela dans sa tente. Et lorsqu'il disait cela, le Saint-Prophète Mohammed a dit à Amara, qui était auprès de lui, qu'une personne avait déclaré que « Mohammed vous dit qu'il est un prophète et il prétend vous informer des nouvelles du ciel alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. » Le Saint-Prophète Mohammed a ajouté « Par Dieu, je ne sais rien d'autre que ce qu'Allah m'a enseigné. » C'est-à-dire que je ne connais pas l'invisible. Je ne transmets que ce qu'Allah m'a enseigné. Et Allah m'a assurément informé au sujet de la chamelle qu'elle se trouve dans telle ou telle vallée. Et par la suite, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a désigné une gorge où se trouvait la chamelle. Ainsi donc, Allah a entendu la parole de cet hypocrite et il a manifesté immédiatement sa jalousie. Il a révélé cela par une vision ou par inspiration. Il a révélé au Saint-Prophète où se trouvait cette chamelle. Le Saint-Prophète a dit que sa bride est accrochée à un arbre. Alors, partez et rapportez-moi la chamelle. Les compagnons sont partis et l'ont trouvée. Ensuite, Amara est parti dans sa tente. Il a déclaré par Dieu, il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam venait de nous parler d'une personne, une information qu'Allah lui avait révélée. Quelqu'un de la tente d'Amara a déclaré par Allah, « Ce que vous venez de dire qu'Allah a révélé au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est exactement ce que Zayd disait avant votre arrivée. » Cette personne assise là, sur quoi Amara a saisi Zayd par le col, et il a dit à ses compagnons, aux serviteurs d'Allah, il y avait un serpent dans ma tente et j'ignorais que je devais le faire sortir. Et en s'adressant à Zayd, il a déclaré, « Dorénavant, je n'ai plus rien à faire avec toi. » Certains pensent que Zayd s'est repenti par la suite. D'autres pensent qu'il est resté impliqué dans ses méfaits et qu'il est mort dans cet état. D'après un récit, le compagnon qui a trouvé la chamelle à l'endroit indiqué par le Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui était Harith bin Khuzaima. Durant ce voyage, les provisions, c'est-à-dire la nourriture et les boissons, sont devenues rares. Il est dit dans un récit rapporté par Abu Huraira que lors de l'expédition de Tabouk, les gens ont souffert d'une grande faim. Ils ont déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Si vous nous le permettez, eh bien nous allons abattre nos chameaux porteurs d'eau, et nous allons les consommer et nous allons utiliser leur graisse. » Le Saint-Prophète a répondu, « Faites-le, parce que la situation était en effet déplorable en raison de la faim. » Le narrateur déclare que lorsque Omar a su à ce propos, il est venu voir le Saint-Prophète. Il a déclaré que « Si vous faites cela, les montures vont diminuer. » Lui ordonner aux gens d'apporter les provisions qui leur restent. Ensuite, prier pour que ces provisions soient bénies. Il n'est pas improbable qu'Allah les bénisse. Le Saint-Prophète a dit « Oui, cela est correct. » Le narrateur relate que le saint prophète a demandé qu'on apporte et qu'on étende une nappe de cuir. Ensuite, il a demandé qu'on lui apporte les provisions restantes de chacun, c'est-à-dire leur nourriture. L'un a apporté une poignée de maïs, un autre une poignée de dattes, un autre un morceau de pain. Et tout cela a été réuni sur cette nappe. Le saint prophète a invoqué les bénédictions d'Allah. Ensuite, il a déclaré « Prenez-en dans vos récipients ». Et ils ont rempli leurs récipients jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients vides dans le camp. Ensuite, ils ont tous mangé et ont été rassasiés et il en est resté. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que « Je témoigne qu'il n'y a personne digne d'être adoré hormis Allah et je suis le prophète d'Allah, celui qui, sans ressentir aucun doute, va rencontrer Dieu avec ce témoignage, ne sera pas empêché d'entrer au paradis ». On mentionne également divers événements lors de ce voyage. Il y a un incident qui concerne une dispute entre deux personnes. Yahla bin Umayya a relaté. J'ai participé à l'expédition de Tabouk avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'avais un serviteur qui s'est disputé avec un homme. Et l'un des deux a mordu la main de l'autre. On raconte que celui dont la main a été mordue a retiré sa main de la bouche du mordeur. Et ce faisant, il lui a arraché une des deux dents de devant, tant l'autre la tenait fermement. Le bras ne sortait pas malgré ses efforts, et comme la main était dans la bouche de celui qui mordait, ses dents se sont arrachées. Les deux hommes se sont présentés au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont la dent a été cassée a réclamé une compensation en disant qu'il m'a cassé une dent, il doit me dédommager. Le saint prophète Mohammed a rejeté cette demande, a dit que il n'est pas recevable à une indemnité pour la dent. Il a déclaré, est-ce qu'il va laisser sa main dans ta bouche pour que tu la mâches? C'est comme si elle était dans la gueule d'un chameau qui la mâcherait. C'est-à-dire la personne dont on mordait la main l'a retirée pour se défendre, et c'est pour cette raison que la dent de l'autre s'est cassée. Il n'y a donc pas de compensation. La décision concernant l'indemnité est prise en fonction des faits et des circonstances. Une indemnité n'est pas attribuée sans examiner les faits. De même, il y a d'autres événements liés à ce voyage. Par exemple, Humayl bin Saadi relate que lors du voyage de Tabouk, lorsque le saint prophète est arrivé à la Wadi Al-Qura, il y avait là-bas un jardin de dattiers. Le saint prophète a dit à ses compagnons, « Estimez la quantité de dattes qui s'y trouvent ici. » Tout le monde a fait une estimation, le messager d'Allah, paix soit sur lui, a également estimé à 10 wasq, soit environ 1800 kilos, la quantité de dattes qui serait récoltée. La femme qui était propriétaire de ce jardin était présente. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Quand vous allez récolter les fruits de ce jardin, souvenez-vous du poids. » Le narrateur rapporte que sur le chemin du retour de Tabouk, lorsque nous sommes arrivés près de ce jardin, le saint prophète a demandé à la femme quelle quantité de fruits a été récoltée. Et elle a répondu exactement ce que le saint prophète Mohammed lui avait estimé, c'est-à-dire 10 wasak. De même, le narrateur rapporte que lorsque nous sommes arrivés à Tabouk, l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a déclaré « Soyez vigilants, un vent violent va souffler cette nuit et personne ne doit rester debout. Et celui qui a un chameau doit aussi lui attacher les genoux. Et si quelqu'un doit sortir pour une nécessité, qu'il n'aille pas tout seul, mais deux personnes doivent sortir ensemble. » Il semble que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était au courant qu'une tempête allait souffler ou il se peut qu'Allah lui avait révélé cela. Les compagnons ont raconté que conformément à ses instructions, nous avons attaché le chameau. Et cette nuit-là, une violente tempête de vent s'est levée. Un homme était debout quand la tempête l'a emporté vers les montagnes de la tribu Taï. Selon un autre récit, deux hommes des Banu Saïda n'ont pas suivi cette directive. Il y avait un homme seul qui est sorti pour satisfaire ses besoins. Un autre était parti seul à la recherche de son chameau. Celui qui était parti faire ses besoins a contracté la diphtérie, qui est une maladie de la gorge. Et celui qui était parti à la recherche du chameau, eh bien, un vent violent l'a emporté, l'a jeté sur les montagnes de Taï. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en a été informé. Il a dit, Est-ce que je n'avais pas interdit de sortir sans être accompagné ? Il a prié pour celui d'entre eux qui était tombé malade et il s'est rétabli. Et l'autre qui avait chuté dans les montagnes de Taï a été rapporté au saint prophète Mohammed Pissos à lui à Médine par la tribu Taï elle-même plus tard. Selon un récit, après la tempête, quand les gens se sont réveillés le matin, il n'y avait plus d'eau. Ils se sont plaints au saint prophète Mohammed Pissos à lui. Le saint prophète Pissos à lui a fait une prière et Allah a envoyé un nuage qui a déversé une pluie abondante sur eux, au point qu'ils ont rempli leurs outres et ils ont satisfait leurs besoins. On rapporte un autre événement miraculeux de la pluie durant l'expédition de Tabouk, en réponse à la prière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas radhiyallahu rapporte que on a demandé à Omar ibn al-Khattab qu'Allah soit satisfait de lui de nous relater quelque chose au sujet de l'expédition de Tabouk. Il a relaté, nous sommes partis vers Tabouk pendant une période de chaleur intense et nous avons fait halte à un endroit. La soif nous a pris, au point que nous avions l'impression que nos gorges allaient se trancher. La situation était telle que lorsqu'un homme partait à la recherche de l'eau et ne revenait pas, nous supposions qu'il était probablement mort. Un homme sacrifiait son chameau puis pressait l'eau de son estomac pour la boire. Et il gardait le reste à l'intérieur. Il en gardait le reste dans un récipient quelconque. Je pense qu'il en gardait dans un récipient quelconque, selon moi. Abu Bakr Siddiq a déclaré « Au messager d'Allah, Allah a placé le bien dans votre prière. Alors priez pour nous. » Le saint prophète Mohammed Pissos lui a demandé « Voulez-vous que je prie pour vous ?» Ils ont répondu « Oui ». Alors le saint prophète Pissos lui a levé les mains. Ses mains n'étaient pas encore revenues qu'un nuage avait déjà fait de l'ombre et la pluie a commencé à tomber. Et les gens ont rempli tout ce qu'ils avaient sous la main. Et après avoir vérifié, nous avons constaté qu'il n'avait pas plu plus loin que le campement. De même, on trouve mention d'un miracle de l'augmentation de l'eau de la source de Tabouk. Mu'adh bin Jabal relate ceci. Nous sommes partis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de l'expédition de Tabouk. Le saint prophète, peace be upon him, combinait les prières. Il accomplissait les prières de Dhuhr et d'Asr ainsi que celles de Maghrib et des Chats ensemble. Un jour, il a tardé à accomplir la prière, le saint prophète Pissos à lui est sorti. Il a combiné les prières de Dhuhr et d'Asr. Ensuite, il est rentré. Ensuite, il est ressorti. Il a accompli les prières de Maghrib et des Chats. Ensuite, le saint prophète a déclaré « Demain, Inch'Allah, vous atteindrez la source de Tabouk. » Et tant que le jour n'est pas complètement levé, vous ne l'atteindrez pas. Donc celui d'entre vous qui l'atteint, eh bien qu'il ne touche pas son eau jusqu'à ce que j'arrive là-bas. Il y avait une source là-bas, il a déclaré, n'utilisez pas l'eau de cette source tant que je ne suis pas sur place. Le narrateur déclare que nous sommes arrivés à la source, mais deux hommes nous avaient précédés et un peu d'eau coulait de la source. Le narrateur déclare que le saint prophète leur a demandé, avez-vous touché cette eau? Ils ont répondu oui. Le saint prophète, paix soit sur lui, les a réprimandés. Et il leur a dit ce qu'Allah voulait qu'ils disent. Le narrateur relate ensuite que les gens ont puisé de l'eau de la source petit à petit avec leurs mains, jusqu'à ce qu'un peu d'eau soit collectée dans un récipient. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a lavé ses deux mains. Il a lavé son visage et il a remis cette eau dans la source. Et la source s'est mise à couler abondamment au point que les gens ont pu apaiser leur soif à satiété. Ensuite, le saint prophète Mohammed Pissos à lui s'est adressé à Mu'adh en disant « Ô Mu'adh, si tu vis longtemps, tu verras cet endroit se remplir de jardins. » Mohammed bin Abdullah Aboulbaqi Zarqani a écrit en expliquant ce hadith que c'était une nouvelle de l'invisible qui s'est réalisée. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a mentionné Mu'adh bin Jabal en particulier. C'était également une nouvelle de l'invisible. Car il était divinement décrété que Mu'adh vienne plus tard dans cette région, c'est-à-dire en Syrie. Et c'est là qu'il est décédé. Il semble que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ait su par révélation que Mu'adh verrait cet endroit. Et cette vallée deviendra un ensemble d'arbres et de jardins. Ibn Wadah, c'est-à-dire Abu Abdullah, Mohammed bin Wadah, dont la durée de vie est de l'an 1099 après l'Hégire à 287 après l'Hégire, était un célèbre muhaddith de l'Andalousie. Il a déclaré que « J'ai vu cet endroit autour de cette source. La verdure et la luxuriante végétation des arbres étaient telles qu'on aurait dit que cela allait durer jusqu'au jour du jugement dernier. » Et telle était la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'atlas de la sirah du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, donne plus de détails sur cette source de Tabouk, indiquant que le chef du département de la charia de Tabouk, Cheikh Saleh, a déclaré que cette source avait jailli continuellement pendant 1400 ans jusqu'à il y a 2 ans. Plus tard, des puits tubulaires ont été creusés dans ces basses terres, et l'eau de la source s'est alors dirigé vers ses puits tubulaires. Après avoir été divisé entre environ 25 puits tubulaires, cette source est maintenant asséchée. Ensuite, Cheikh Saleh nous a également emmenés vers un autre tube de forage. Là, nous avons vu qu'un tuyau de 4 pouces était installé et sans aucune machine, l'eau en sortait avec force. On nous a rapporté une situation similaire pour d'autres puits tubulaires. Tout cela était une bénédiction du miracle du saint prophète, paix soit sur lui, qu'il y a aujourd'hui tant d'eau à Tabouk. Nous n'avons jamais vu tant d'eau ailleurs qu'à Médine et à Khaybar. En réalité, l'eau Tabouk est encore plus abondante qu'en ces deux endroits. Grâce à cette eau, des jardins sont maintenant plantés partout à Tabouk. Et conformément à la prophétie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, la région de Tabouk est remplie de jardins et ne cesse de se remplir jour après jour. On trouve également mention de la responsabilité de la garde lors de l'expédition de Tabouk. Lors de l'expédition de Tabouk, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a désigné Abad bin Bishr pour la protection spéciale. Il patrouillait avec ses compagnons autour de l'armée. Un jour, il s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit sur lui et a déclaré au messager d'Allah : Nous entendons le son du takbir derrière nous jusqu'au matin. Avez-vous ordonné à d'autres de patrouiller pour assurer la protection ? Le saint prophète a dit qu'il ne l'avait pas fait, mais peut-être que certains musulmans le faisaient volontairement. Sulkan bin Salama était celui à qui on n'avait pas confié cette tâche. Mais il accomplissait cette tâche par lui-même, par amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Je sors avec mes 10 cavaliers musulmans et j'assure la protection de ceux qui sont de service. » Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fait cette prière. « Qu'Allah protège ceux qui assurent la protection de ceux qui protègent sur la voie d'Allah le gracieux, le miséricordieux. » Pour chaque âme ou animal que tu as protégé, que ce soit parmi les gens ou parmi les animaux, tu recevras une kirat de récompense. Une kira est l'équivalent d'environ 2 grammes d'or. Il est rapporté qu'au cours du voyage de Tabouk, les gens étaient dans un tel état que certains restaient en arrière à chaque étape. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui disaient au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ô envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un tel est resté en arrière aujourd'hui. Sur ce, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disaient, laissez-le, s'il y a du bien en lui, Allah le réunira avec vous. Et si cela est autrement, Allah vous en délivrera. Pendant ce temps, quelqu'un a dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dhar est resté en arrière et son chameau est devenu lent. Il a dit, laissez-le. S'il y a du bien en cela, Allah vous réunira avec lui. Et s'il y a autre chose en cela, eh bien, Allah vous en débarrassera. Sa situation était telle que son chameau le fatiguait beaucoup. Son chameau était devenu complètement lent. Quand le chameau d'Abu Dharr est devenu complètement lent et faible, il est descendu du chameau, il a chargé ses biens sur son dos et il s'est mis en route à pied suivant le saint prophète Mohammed bin Sassoudi. Après quelques étapes, il a fait une halte à un endroit. Un observateur parmi les musulmans a déclaré au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Voilà un homme seul qui arrive sur la route. » Le saint prophète, peace be upon him, a déclaré « Kun Abu Dharrin, qu'il soit Abu Dharr, ou j'aurais aimé que ce soit Abu Dharr. » Et les gens ont regardé attentivement, ils ont déclaré au messager d'Allah, c'est bien Abu Dharr. Le saint prophète a déclaré que Dieu ait pitié d'Abu Dharr. Il est parti seul, il mourra seul et il sera ressuscité tout seul. Les paroles du saint prophète, peace be upon him, concernant Abu Dharr, au sujet de sa solitude, eh bien, cette parole s'est réalisée à la lettre durant le califat d'Othman, radhiyallahu anhu. Abu Dharr et sa famille s'est installés à Rabaza, en dehors de Médine. Rabaza est un lieu situé à environ 96 milles de Médine, soit 3 jours de distance de Médine. Il était accompagné de sa femme, de ses enfants et d'un esclave. Il n'y avait aucun village dans les alentours. Le moment de sa mort s'est approché, sa femme s'est inquiétée en raison de la solitude. Et il n'y avait pas non plus de linceul. Elle s'est mise à pleurer. Sur ce, Abu Dharr lui a dit « Ne pleure pas ». J'ai entendu le saint prophète peace be upon him lui dire que l'un d'entre vous mourra dans le désert et qu'un groupe de croyants participera à sa prière funéraire. Et en même temps, il a dit à sa femme que lorsque le saint prophète peace be upon him lui prononçait ces paroles, eh bien, toutes les personnes qui étaient présentes à ce moment-là étaient déjà décédées. Et personne n'est mort seul dans le désert. Et seul moi suis cette personne. Ne t'inquiète pas pour moi, dit-il. Après ma mort, après m'avoir lavé, placé ma dépouille sur le chemin qui mène à Médine. Ils ont suivi ses instructions. Et quelque temps après, Abdullah bin Mas'ud est passé par là avec ses compagnons. Il se rendait de l'Irak pour accomplir l'Umra. Et lorsqu'il apprit qu'il s'agissait de la dépouille d'Abu Dharr, ses yeux se sont remplis de larmes. Et en pleurant, il a déclaré, le messager d'Allah, peace be upon him, a dit la vérité, notamment qu'Abu Dharr marchera tout seul et qu'il mourra tout seul. Puis ils ont fait la prière funéraire pour lui et ils l'ont enterré là-bas. Ensuite, il a relaté à ses compagnons toute l'histoire d'Abu Dharr concernant la bataille de Tabouk. Il a expliqué comment la parole du saint prophète, peace be upon him, s'est accomplie. Il y a eu un incident qui concernait Wathila, le fils d'Esra, et qui était parti à la rencontre de l'armée. Il s'était converti à l'islam quelque temps avant le départ pour Tabouk. Il était venu à Médine. Il était encore à Médine lorsque le saint prophète a annoncé la préparation pour Tabouk. Wathila bin Esra déclare que le saint prophète, peace be upon him, a annoncé la mobilisation lors de la bataille de Tabouk. Je suis rentré chez moi, je suis revenu, mais mes compagnons étaient déjà partis. J'ai commencé à appeler dans la ville. Y a-t-il quelqu'un qui accepte de prendre un homme avec lui sur sa monture en échange de sa part du butin? Un vieil Ansari a déclaré que nous allons prendre sa part et nous le ferons monter avec nous et nous lui donnerons à manger et à boire avec nous. J'ai dit « Oui, j'accepte cette condition. » Et alors, le vieil homme a déclaré « Eh bien, nous allons placer notre confiance en Allah et nous allons partir. » Wathila déclare que je suis parti avec un très bon compagnon jusqu'à ce qu'Allah nous accorde du butin. J'ai eu de ma part quelques chamelles rapides. Je les ai menées à mon compagnon. Il est sorti, il s'est assis à l'arrière de son chameau et il a dit « Fais-les marcher dos à moi. » Ensuite, il a dit, « Fais-les marcher face à moi. » Après quoi, il a dit, « Tes chamelles sont excellentes, selon moi. » Je lui dis, « C'est ton bien, cela t'appartient. » Ceci était en accord à la condition que nous avions fixée. Il a dit, « Mon neveu, c'est ta part, garde-la. » Mon but n'était pas de prendre cette part. En tout cas, grâce à cette excuse, il a participé à la bataille. Il y a aussi le récit de l'adhésion d'Abu Khaythama à l'armée. Abu Khaythama était également l'un des compagnons qui était resté en arrière après le départ de l'armée. On dirait qu'il n'était pas à Médine durant ses jours. Quelques jours après le départ du saint prophète Mohammed peut se lui, Abu Khaythama est arrivé chez lui à Médine par une journée très chaude. Il a vu que ses deux épouses avaient arrosé leur hutte dans le jardin et avaient préparé de l'eau fraîche pour lui ainsi que de la nourriture. Abu Khaythama se tenait à la porte de sa hutte et voyant ce que ses femmes avaient préparé pour lui, il a déclaré que « Le saint prophète, paix soit lui, est parti en voyage par un soleil brûlant, par une chaleur intense et par un vent de feu. Et Abu Khaythama, quant à lui, est assis à l'ombre fraîche avec de bons repas, de belles femmes et son bétail. Ceci n'est pas juste. » Ensuite, il a déclaré « Par Allah, je m'approcherai d'aucune d'entre vous tant que je n'aurai pas rejoint le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors préparez-moi toutes les deux mon équipement de voyage. » Et elles s'exécutèrent. Ensuite, Abu Khaythama est monté sur son chameau. Il s'est mis en route derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un après-midi, dans une chaleur intense et par un vent brûlant, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aperçu un cavalier arriver de loin dans le désert. Selon le récit d'Ibn Hisham, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était déjà arrivé à Tabouk. Il a déclaré si seulement c'était Abu Khaythama. Et quand il s'est approché, les compagnons ont déclaré au messager d'Allah, c'est bien Abu Khaythama al-Ansari. Il a fait s'asseoir son chameau et s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il lui a adressé ses salutations. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, ô Abu Khaythama, pourquoi es-tu resté en arrière? Ainsi donc, il a relaté l'histoire au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ce, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié pour son bien. Hadrat Muslim Maoud Aradu Talanhu a également mentionné cet événement. Il déclare, il est écrit que lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, est parti pour Tabouk, certains compagnons sont restés en arrière. Parmi eux, il y avait Abu Khaythama. C'était quelqu'un de très pieux. Il n'avait pas l'intention de rester en arrière. Mais lorsqu'on a ordonné de partir pour la bataille, il n'était pas chez lui. Et quand il est rentré chez lui, il a vu que sa femme l'attendait, comme si elle voulait parler avec lui. Il a ignoré le désir de sa femme et lui a demandé si le saint prophète, paix soit sur lui, était parti. Sa femme lui a dit de s'asseoir un moment. Il a répondu que le saint prophète, paix soit sur lui, était parti pour la bataille et que lui, est-ce qu'il allait se reposer à la maison? Abu Khaythama ne peut pas endurer cela. Et il est sorti immédiatement, il a préparé son cheval et il l'a monté et il a pris le chemin. Ici, Hadrat Muslim Maoud a mentionné un cheval, alors que dans certains récits, on trouve mention d'un chameau, ou bien la mention du cheval est une erreur. Quoi qu'il en soit, il est possible que les deux récits se concordent. Quoi qu'il en soit, il s'agissait d'une monture qu'il a utilisée pour se mettre en route. Ainsi donc, il a emprunté le chemin emprunté par le saint prophète, paix soit sur lui, après un long voyage à Abu Khaythama, a rejoint le saint prophète, paix soit sur lui, après avoir parcouru de nombreuses étapes. Lorsqu'il s'approchait de l'armée, certains compagnons ont vu de la poussière s'élever au loin. Ils ont demandé qui arrivait. À ce moment-là, le saint prophète a déclaré « Kun Abu Khaythama », qu'il soit Abu Khaythama. Or, cette phrase ne peut signifier que quiconque arrive, qu'il se transforme en Abu Khaythama. Par conséquent, cela signifie que je souhaite que celui qui arrive soit Abu Khaythama. Ailleurs, le Muslim Maoud Aradu Talanhu a expliqué l'expression « kun ». La première référence était suite à un commentaire d'un verset tiré du Tafsir Kabir. Cette deuxième référence est aussi tirée du Tafsir. Hadrat Muslim Maoud Aradu Talanhu explique le terme « kun ». Il déclare « Il faut se rappeler que le mot « kun » est utilisé en arabe à la fois pour parler de quelqu'un et simplement pour exprimer un souhait. Ainsi, lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, a mené une expédition militaire vers la Syrie, Abu Khaythama était un compagnon en qui il avait une grande confiance et qu'il aimait beaucoup. Et il pensait que cet homme ne ferait pas preuve de négligence dans l'accomplissement de son devoir. Mais lorsqu'il est arrivé à une certaine distance de la ville avec l'armée, et qu'il a passé en revue ses compagnons, il n'a pas trouvé Abu Khaythama. et il était très peiné de constater qu'il avait une si bonne opinion de lui et que Abu Khaisama, quant à lui, était resté en arrière et qu'il n'a pas participé à ce djihad. Lorsqu'il s'est mis en route, quelqu'un a déclaré au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un arrive. Lorsqu'il a regardé dans cette direction, il a déclaré Kun Abu Khaisama. Et lorsque la poussière s'est dissipée et que l'homme s'est approché, les gens ont constaté qu'il s'agissait d'Abu Khaisama et il a loué Allah d'avoir si rapidement exaucé son souhait. Kun Abu Khaisama ne signifiait pas que quelle que soit la personne qui arrive, qu'il se transforme en Abu Khaisama. Mais le saint prophète souhaitait dire « Plaise à Dieu que cette personne soit Abu Khaisama ». En arabe, c'est une expression idiomatique. Parfois, le mot « kun » est utilisé pour exprimer un souhait. Je n'ai pas lu le verset que le musulman Maoud a commenté ici, mais en tout cas, il a clarifié le mot « kun ». J'expliquerai le reste à l'avenir, Inch'Allah. Priez pour ceux qui ont été blessés lors de l'attaque contre la mosquée de Rabwa. Que Dieu les protège, qu'Allah accorde une guérison complète à ceux qui ont été grièvement blessés. Et que Dieu mette en échec tous les plans des opposants au Pakistan. Aujourd'hui, à Rabwa, un rassemblement a lieu au nom de la Khatm al-Nabuwa. Et les Mullahs sont en train de proférer leurs insultes, ou peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Je ne sais pas si le rassemblement est terminé maintenant. Qu'Allah nous protège leur mal. De même, prier pour les Ahmadis du Bangladesh, là-bas aussi, les intentions des opposants semblent très mauvaises. Qu'Allah protège chaque Ahmadi là-bas également. Prier également pour les Palestiniens, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les délivre des oppresseurs. Le cessez-le-feu annoncé n'est que de nom. Les événements des deux derniers jours ont prouvé qu'il ne s'agissait que d'un cessez-le-feu de nom. Qu'Allah protège ses opprimés de l'oppression et qu'Allah punisse les oppresseurs.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.